Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.
Écoutez, Seigneur, mon cri d'appel. Soyez mon secours, ne m'abandonnez pas et ne me rejetez pas, ô Dieu de mon salut. Mes très chers frères, il arrive assez souvent que nous cherchions quelque chose qui est tout près de nous et, pour ainsi dire, sous nos yeux, et que nous ne le trouvions pas. Pourquoi ? Parce que les yeux de notre esprit ne le voient pas. Notre esprit n'a pas la chose qu'il cherche devant les yeux, de telle sorte que nos yeux physiques ont cette chose devant eux, mais ils ne la reconnaissent pas, ils ne la voient pas. Eh bien, il en va fréquemment ainsi de la prière. Nous demandons, sans prendre conscience, que Dieu nous exauce, parce que nous nous attendons à une autre réponse de sa part. Nous nous adressons à lui, et nous ne savons pas le reconnaître quand il nous exauce. C'est pour cela que dans les paroles que vous venez d'entendre, qui sont tirées de l'introïte de la messe du cinquième dimanche après la Pentecôte, il est dit « Écoutez, Seigneur, mon cri d'appel, Domine exaudi vocem meam ». Combien d'entre nous font monter à Dieu cette prière « Écoutez, Seigneur, mon cri d'appel » et il nous semble que Dieu ne nous répond pas. Et pourtant, dans les mots mêmes que nous utilisons, se trouve la réponse. La réponse de la forme que Dieu utilisera pour nous répondre. Écoutez, Seigneur, exaudi, domine. C'est au Seigneur que nous nous adressons. Eh bien, qui est le Seigneur ? C'est notre roi, notre maître. Ce n'est pas simplement le mien, le vôtre, mes très chers frères, c'est celui de tous les chrétiens. Donc, il y a souvent quelque chose qui nous fait défaut quand nous prions, c'est que nous oublions que nous prions à notre Père commun. Nous crions à notre Seigneur, nous nous adressons à notre Maître, nous ne nous adressons pas comme une personne en danger s'adresse, par exemple, à un passant qui passe. Ce passant qui passe, c'est la personne qui peut sauver cette personne. Mais après tout, ce passant est là par hasard, comme on dit. Donc vous voyez, bien souvent, nous nous adressons à Dieu, mais nous ne sommes pas exaucés, parce que nous nous adressons à lui comme s'il n'était pas le Seigneur de tous. Alors nous avons plusieurs choses à voir avec l'aide du Saint-Esprit aujourd'hui, mes très chers frères. Nous avons à voir tout d'abord quelle est l'unité réelle des chrétiens, qui est un fait transcendant, un fait dogmatique. Deuxièmement, nous avons à voir la nécessaire manifestation de cette unité de tous les chrétiens par l'amour fraternel. Et enfin, en troisième point, la finalité de cet amour et de cette union et le moyen de la réaliser. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Mes très chers frères, dans son épître, le bienheureux apôtre Pierre dit ceci. « Mes frères, mes bien-aimés, ne faites qu'un dans la prière. Soyez compatissants, aimez-vous en frères, soyez miséricordieux, humbles et doux. » Il ne s'agit pas, quand il nous dit « ne faites qu'un dans la prière »,« omnes unanimes in oratione estote »,« soyez tous unanimes dans la prière », il ne s'agit pas d'une collusion toute numérique, entre gens qui ont un intérêt commun et passager. Cette collusion ne pourrait durer que jusqu'à l'exaucement. Un petit peu comme quand les mondains font une pétition, ils passent dans les rues, dans les maisons, ils recueillent des signatures afin de pouvoir obtenir quelque chose, et quand cette chose est obtenue, eh bien, tout le monde se disperse. Ce n'est pas la même chose pour les chrétiens lorsqu'ils sont unanimes dans la prière. Ils sont unanimes à demander quelque chose, quoi que ce soit, à Dieu, parce qu'ils sont un dans le Christ qui est notre chef, dont nous sommes les membres, et parce qu'ils continuent à demeurer un, alors même que l'exaucement est arrivé. Vous savez, on dit souvent, et à juste titre, et c'est une chose extrêmement importante de nos jours, il y a la question de l'unacum. Est-ce qu'il faut être en union avec les pseudo-papes de Rome, etc. Alors, la réponse est non, bien entendu, mais une fois qu'on a dit ça, on a dit quelque chose de vrai, mais on n'a pas tout dit. C'est-à-dire qu'il faut être unacum, c'est-à-dire en union avec la bonne personne, le bon pape, si j'ose dire, mais il faut être aussi en union avec tous les évêques, tous les défenseurs de la foi, et d'une façon générale, tous les chrétiens qui sont nos frères, pas les faux chrétiens, pas, enfin, c'est-à-dire les hérétiques, les schismatiques, les hétérodoxes, mais enfin, il y a quand même bien quelques chrétiens qui restent encore sur terre, donc nous devons être unis avec eux à la messe. De telle sorte que nous devons comprendre que le prêtre, la question, le prêtre qui est, on appelle non nunakum, ne doit pas simplement être uni ou ne pas être uni avec un faux vicaire du Christ, mais il faut aussi qu'il soit positivement uni avec tous les autres orthodoxes et défenseurs de la vraie foi. Donc vous voyez, mes très chers frères, les premiers chrétiens n'étaient qu'un seul cœur et qu'une seule âme, nous dit le livre des Actes. La charité fraternelle n'est pas, comme nous l'avons dit, la complicité. Elle est le lien de la perfection, dira saint Paul ailleurs. Or, la perfection, c'est le modèle que nous donne notre Père céleste. C'est pour cela que notre Seigneur dit « Soyez parfaits comme votre Père est parfait » et il nous parle de la miséricorde de notre Père céleste. Dans le graduel, nous disons à Dieu ceci. « Dieu qui est notre protecteur, voyez, jetez les yeux sur vos serviteurs. » Cela rejoint ce que nous disions au début de ce sermon. Protector noster aspice Deus et respice super servos tuos. Nous prions à Dieu, unanime, et il se trouve que nous sommes tous les serviteurs de Dieu, tous ensemble. Il y a donc une unité entre les chrétiens, d'une part parce qu'ils ont un seul et même Père, et d'autre part parce que ce Père est un seul et unique Seigneur. Et il est dit dans la deuxième partie de l'introïte, Seigneur Dieu des armées, écoutez la prière de vos fidèles. Dominus Deus virtutum exaudi preces servorum tuorum. Dieu n'écoute nos prières que dans la mesure où nous sommes en union avec nos frères. Nous en avions déjà parlé par le passé, mais c'est une chose très importante, donc il faut en parler régulièrement. Dieu ne peut pas écouter, exaucer ma prière si je suis en désaccord avec mes frères. Alors, ne disons pas, oui, mais si ce sont des hérétiques, c'est tout simple, si ce sont des hérétiques, ce ne sont pas nos frères. Si ce sont des orthodoxes, alors ce sont nos frères. Donc, il se peut qu'entre gens d'une même foi, nous ayons des divergences, nous ayons des inimitiés, nous ayons des conflits, que sais-je. Cela ne doit pas être. Il faut, pour être exaucé, que nous soyons unanimes. Et ne vous dites pas, mes très chers frères, ne nous disons pas, s'il fallait attendre que tout le monde soit d'accord pour pouvoir prier, nous ne serions jamais exaucés. C'est peut-être la raison pour laquelle le mouvement traditionnaliste, comme on dit, est en échec depuis presque son existence, le début de son existence. C'est-à-dire que nous sommes si peu unanimes, si peu unis, nous nous adressons tellement à Dieu comme si c'était notre référent personnel à l'exclusion de tous les autres, que probablement c'est pour cela que nous ne sommes non seulement pas bénis, que nous ne sommes non seulement pas exaucés, mais que nous nous divisons, subdivisons, etc., à n'en plus finir. Seigneur Dieu des armées, Seigneur Dominus Sabaoth, écoutez la prière de vos fidèles. Ma prière, c'est la prière de mes frères. La prière de mes frères, c'est ma prière. Quand je prie, ils prient avec moi. Quand ils prient, je prie avec eux. Le Seigneur Dieu des armées, c'est le Seigneur Dieu des anges, les armées célestes, comme dit l'Écriture. L'union qu'il y a entre les anges, vous savez, maître Chaffin, n'est pas plus forte, n'est pas plus intime, n'est pas plus vraie que celle qui est entre les chrétiens. Nul ne peut les branler, rien ne peut les branler. Elle consiste à la fois dans la station de chacun dans sa place propre et dans la cohésion interne de l'ordre. C'est-à-dire que pour être en union avec nos frères chrétiens, il faut que chacun de nous, et chacun d'eux aussi, pour qu'ils soient en union avec nous, se tiennent stable, de façon stable, au niveau de l'ordre, là où Dieu les a placés, et il faut s'appuyer sur la cohésion de l'ordre des choses, c'est-à-dire en l'occurrence de l'Église, de l'ordre ecclésial. Si je prie pour avoir quelque chose qui est interdit par mon prêtre, mon évêque, Dieu ne m'exaucera pas, et si quelqu'un m'exauce, ce n'est pas Dieu. Si je prie, allons un petit peu plus loin, pour être sauvé, mais en même temps que je n'aime pas tel ou tel frère, je prie d'une façon qui rend Dieu incapable de m'exaucer. Pourquoi ? Parce que si Dieu m'exauce, il va me faire aller au ciel. Mais comme il va faire aller au ciel aussi tous les autres chrétiens, je vais retrouver ceux que j'aurais détestés sur la terre. Donc, d'une certaine manière, je prie d'une façon qui, si elle était exaucée, me remplirait de colère et de haine. Imaginez, je vais au ciel et je retrouve mon frère que je n'ai jamais pu supporter sur la terre. Et je me plains et je me dis que Dieu invite n'importe qui dans son ciel, que ce n'est pas sérieux, etc., et que je préfère aller en enfer. Donc du coup, vous voyez, mes très chers frères, lorsque je prie d'aller au ciel sans vouloir aimer mon frère, en fait, Dieu m'exauce en m'envoyant en enfer, si je dois persévérer et mourir dans cet état, que Dieu nous garde. Donc vous voyez, mes très chers frères, nous ne pouvons pas faire abstraction de l'unité fondamentale de l'Église. Se séparer de l'unité, c'est se séparer du Christ. C'est un grand thème que l'on trouve chez notre Père Saint-Augustin, mais aussi chez tout le monde. C'est une chose fondamentale. Si l'on se sépare de l'Église, on se sépare du Christ. Si l'on demeure chrétien, qu'on n'est pas schismatique, mais que l'on se sépare de ses frères, de la charité fraternelle, de la fraternité, alors ça veut dire que nous ne pouvons pas plus être exaucés par Dieu. C'est pour cela que dans la communion, il est dit, il est une chose que j'ai demandé au Seigneur, je la demanderai sans cesse, c'est d'habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le désir de tout chrétien est d'habiter au ciel. Or, cela ne se peut sans que les autres y habitent aussi. Et c'est pour cela que nous devons cultiver cette conscience de l'unité de l'Église, cette unité des chrétiens. Et malheureusement, c'est une chose assez difficile, qui peut nous paraître un peu artificielle quand on voit que toutes les chapelles qui se battent les unes entre les autres, qui les gens qui s'entretraitent d'hérétiques pour une modique vision des choses qui n'est pas inhérente à la foi, des gens qui se moquent des autres parce qu'ils n'ont pas telle ou telle thèse, que sais-je. Bref, il se trouve que, voyez mes très chers frères, nous ne pouvons pas être exaucés si nous ne cultivons pas la fraternité. Or, cette fraternité, pour pouvoir la cultiver, il faut en être persuadé. Il faut être persuadé qu'elle existe. Il faut persuader qu'elle est. Et elle est avant même que nous en prenions conscience, puisque le Christ est un et que son Église est une. Maintenant, c'est à nous d'entrer dans cette Église et de devenir véritablement les frères de nos frères. Voilà comment nous sommes, quand nous sommes chrétiens, dans une unité réelle, une unité transcendante, une unité absolument absolue, tout simplement, qui n'est autre que celle du corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que, revenons à l'Épître, Saint-Pierre nous dit « Mes bien-aimés, ne faites qu'un dans la prière, soyez compatissants, aimez-vous en frères, soyez miséricordieux, humbles et doux. » Le fait dogmatique de l'unité de l'Église doit se vérifier dans chacun de ses membres et par chacun de ses membres. La caractéristique d'un chrétien, c'est qu'il aime ses frères d'un amour que l'on appelle sacrificiel, c'est-à-dire jusqu'à donner sa vie pour eux. C'est notre Seigneur qui le dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Si nous voyons des fois dans la nature une mère animale se sacrifier pour ses petits, dans la race des chiens, des chats, des quadrupèdes, que sais-je, si nous voyons dans le monde des gens, des bandits, capables, quand un est arrêté, d'aller en prison, de ne rien dire pour que les autres demeurent libres, et de prendre la peine maximale, sachant qu'on le punit parce qu'il n'a rien dit, mais ce silence dans lequel il perdure fait que les autres sont insoupçonnables et libres, alors, mes très chers frères, nous-mêmes, nous ne devons pas être en reste du point de vue surnaturel. Car ce qui est possible à la nature même non raisonnable, ce qui est possible pour des raisons de méchanceté et de complicité, doit être d'autant plus possible à ceux qui ont reçu la grâce du Saint-Esprit, à ceux qui ont reçu l'adoption, à ceux qui sont enfants de Dieu, de nom et de vérité et de réalité. L'amour que le chrétien doit porter pour ses frères est un amour qui doit aller jusqu'à donner sa vie pour eux. Évidemment, ce n'est pas tous les jours que nous avons à donner notre vie pour les frères, donc entre-temps, si j'ose dire, nous devons éliminer dans cet amour tout ce qui s'oppose et qui contrevient à la charité. Vous allez dire, pourquoi est-ce que vous opposez l'amour à la charité? Je n'oppose pas l'amour à la charité, je dis simplement que cet amour que nous avons pour les frères doit être un amour véritablement de charité. Ce n'est pas un amour, encore une fois, de collusion, un amour de fierté. Nous sommes tous fiers d'être chrétiens contre telle ou telle personne qui ne sont pas chrétiens. Nous devons aimer nos frères d'un amour qui n'est autre que l'amour de Dieu. Nous y reviendrons dans un instant. Saint-Pierre nous dit « Ne faites qu'un, soyez unanimes dans la prière ». Ensuite, il nous dit « Soyez compatissants ». Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie, comme dit Saint-Paul, prier avec ceux qui, pleurer avec ceux qui pleurent et se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Se faire tout à tous, de telle sorte que nous ne soyons jamais étrangers à ce qui se passe dans la vie de nos frères. Ça ne veut pas dire, évidemment, se mêler des affaires des autres et des choses qui ne nous regardent pas, vous avez compris, mes très chers frères. Ça veut dire que quiconque est notre frère nous touche. Et de même que si nous découvrions que nous avions, selon la chair, un frère, tout d'un coup, tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, toute sa famille, etc., nous deviendrait très intéressant et très intime parce que nous aurions découvert qu'il est notre frère. Et bien de même, dans la vie surnaturelle, dans la mesure où nous savons que nos frères ne sont autre chose que nous-mêmes, c'est-à-dire que les membres du corps, du corps du Christ, qui est le même et un seul et unique corps, nous devons avoir un très grand intérêt spirituel pour eux. Nous devons pleurer avec ceux qui pleurent, se réjouir avec ceux qui se réjouissent, prier pour ceux qui en ont besoin, demander leur prière à ceux qui peuvent prier pour nous. C'est ça, être compatissant. Bien sûr, la compassion, ça a aussi le sens général que nous avons encore dans notre langue, qui consiste à dire dans une sorte de bonté spontanée, de générosité spontanée. Mais c'est plus, c'est beaucoup plus. Quand Saint-Pierre utilise ce mot, c'est selon son origine étymologique qui signifie souffrir ou ressentir avec. Ensuite, il nous dit soyez, aimez-vous en frères. Fraternitatis amatores. Plus précisément, aimez la fraternité. Il faut aimer la fraternité chrétienne. Et qu'est-ce que cette fraternité chrétienne ? Ça se manifeste, nous dit un auteur, par une affection tendre pour notre prochain chrétien. C'est-à-dire, je cite, « être toujours prêt d'entrer dans tous ses besoins et dans tous ses intérêts pour lui rendre tout le service dont nous sommes capables ». On entend souvent les chrétiens, ou des militants, disons plutôt, faisons une distinction, dire on trouve beaucoup plus de solidarité chez les juifs, chez les francs-maçons, chez les mafieux que chez les chrétiens. C'est bien dommage, il faudrait faire en sorte que nous puissions travailler ensemble, que nous puissions bâtir des réseaux ensemble, etc. Afin que nous puissions opposer un front commun à tous ces gens qui sont unis contre nous. Je veux bien, mes très chers frères, mais le problème c'est que la plupart du temps, ce sont ces mêmes personnes qui, pour être ce qu'elles sont, c'est-à-dire des militants, des combattants pour le Christ, des chevaliers, de je ne sais pas trop quoi, eh bien, elles se dispensent allègrement de la charité. Or, il n'y a de fraternité, il n'y a d'intérêt pour le prochain, il n'y a d'entraide, il n'y a de solidarité, si j'ose utiliser ce mot, que suite à la charité fraternelle. On ne peut pas être regroupé avec d'autres chrétiens sans avoir la charité. Alors vous allez dire, mais regardez les francs-maçons, ils n'ont pas besoin de la charité pour être unis. C'est un des grands avantages, mes très chers frères, d'être chrétien. Rien ne marche, sinon pour des raisons surnaturelles. Les francs-maçons, d'autres personnes, etc., se réunissent, s'unissent, s'allient, s'entraident pour des buts, mettons, qui sont purement terrestres. Lorsque les chrétiens veulent se rassembler, s'entraider pour des buts purement terrestres, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que notre patrie n'est pas ici-bas. Vous allez dire, ah bon, ben ça veut dire alors en réalité, il ne faut pas bâtir de réseau, il ne faut pas s'entraider, il ne faut pas viser une solidarité chrétienne, il faut juste s'entraimer les uns les autres. Mes très chers frères, j'imagine que vous venez d'entrer. Ceux qui s'aiment véritablement selon Dieu d'un amour de charité, prennent non seulement le temps de prier les uns pour les autres, mais ils prennent un très grand intérêt dans les besoins et les intérêts des autres, et ils se rendent mutuellement tous les services dont ils sont capables. Évidemment, cela veut dire que nous ne pouvons pas bâtir avec ceux qui démolissent. Nous ne pouvons pas faire des grandes foires de la chrétienté ou du pays réel, je ne sais pas exactement, avec des mécréants, avec des gens qui sont catholiques, qui défendent la foi catholique, mettons, et puis avec des gens qui blasphèment à pleine gueule contre le Christ, qui disent qu'il faut être chrétien mais au second degré, ou des gens qui se moquent éperdument du christianisme et qui sont là uniquement pour des raisons, mettons, temporelles. Mes très chers frères, nous ne pouvons pas bâtir avec les gens qui ne sont pas animés de du sentiment de la charité, de la réalité de la charité. Pourquoi ? Parce que la charité, ce n'est autre que le Saint-Esprit de Dieu, et que le Saint-Esprit de Dieu ne demeure que dans les vases formés par le divin potier et dans aucun d'autre. Non seulement en dehors de l'Église, on ne peut pas être sauvé, mais avec les gens qui sont en dehors de l'Église, on ne peut pas collaborer. Et saint Pierre nous dit encore, « Soyez miséricordes, modestie, humiles. » Miséricordes, miséricordieux, modestie, qui se traduit parfois par humble ou doux, modeste, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, c'est-à-dire ayez une attitude qui soit en quelque sorte une attitude d'un membre par rapport à un autre membre, d'une pierre par rapport à une autre pierre. Si une pierre qui repose sur une pierre tout d'un coup s'enfle et veut être beaucoup plus lourde, beaucoup plus belle que les autres, ben elle va tout démolir. Vous voyez, si un membre s'hypertrophie, il va mettre du désordre dans le corps et c'est un signe qu'il est malade. Vous voyez, modestie signifie donc rester à votre place et soyez-y efficace. Et puis humilesse, humble, ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même, c'est le béaba pour la vie dans la société surnaturelle qu'est l'Église. Ce sont des dispositions nécessaires pour ne pas se laisser rebuter, mais aussi pour faire, mais aussi et surtout pour que ces vertus soient véritablement méritoires, c'est-à-dire qu'elles soient exemptes d'amour propre. Celui qui arriverait à bâtir avec ses copains chrétiens une sorte de réseau d'entraide serait encore très loin de ce que Dieu attend de lui. Et même commençant par la fin, il n'y arriverait jamais. Pourquoi ? Parce qu'il faut tout faire pour l'amour de Dieu. Sans la charité, rien de ce que nous ne pouvons faire ne vaut pour l'éternité, et je dirais même quand on est chrétien, ne vaut pour le temps. Il suffit de regarder tout ce qui se fait pour voir que la charité faisant défaut, ce n'est pas forcément dire qu'on se critique les uns les autres, mais l'amour de Dieu étant exclusif parce qu'on s'allie avec des gens qui de toute façon n'aiment pas Dieu, c'est comme construire, construire un mur avec une pierre, une éponge. Je sais bien que de loin, une grosse éponge peut ressembler à une pierre, surtout quand elle est très sale, mais en réalité, c'est tout à fait autre chose. Et celui qui bâtirait un mur avec des éponges et avec des pierres, si j'ose dire, aurait une surprise à un certain moment ou à un autre. Et Saint-Pierre rajoute, « Ne rendez point le mal pour le mal, ni outrage pour outrage, mais au contraire, bénissez ceux qui vous maudissent, car c'est à cela que vous avez été appelés pour devenir les héritiers de la bénédiction. » Ne rendez point le mal pour le mal. Il ne faut pas, mes très chers frères, nous attendre à ce que nos frères nous rendent l'appareil. Vous allez dire, oui, mais alors mes frères, moi j'écoute le sermon et mes frères ne l'écoutent pas, et donc moi je dois les aimer, pendant que eux, carrément, ils me maudissent, ils me font du mal. Mes très chers frères, bien souvent, nous avons été ceux qui maudissent et font du mal à nos frères qui veulent nous aimer ou qui veulent bâtir dans le corps du Christ. Nous avons été ce frère-là. Nous avons été plein d'outrages pour notre prochain. Donc, il ne faut pas s'étonner si Dieu, pour nous châtier, puis pour nous ouvrir les yeux aussi, nous fait être outragés par des frères. Et bien souvent, nous sommes outragés, alors que nous croyons être outragés, nous ne le sommes pas réellement. Mais quand bien même nous le serions, parce que ça peut arriver malheureusement, il ne faut point rendre le mal pour le mal, ni outrage pour outrage. Ne nous disons pas... Donc c'est toujours les mêmes qui doivent faire des efforts et les autres n'en font pas, en sont dispensés. Non. Disons-nous plutôt, lorsque je ferai des efforts, le mérite de cet effort fait pour l'amour de Dieu, qui se manifeste par l'amour fraternel, quoi qu'il arrive, aura un impact positif et édifiant sur mon frère qui pour l'instant est outrageant et me fait du mal. Vous voyez ? Si j'attends que les autres fassent des efforts, tout le monde attend, c'est un petit peu comme ce genre de situation, vous savez, où on s'est donné rendez-vous, mais chacun a mal compris, et chacun attend patiemment, chacun est arrivé à l'avance, dans un lieu différent, et attend. Et on attend, on attend, on attend, et il ne se passe rien. Vous voyez ? Si moi-même, je ne fais pas ce que dit Saint-Pierre, personne ne le fera. Alors évidemment, vous allez dire, est-ce que ce n'est pas un petit peu prétentieux ? Mes très chers frères, commençons à essayer par être unanimes dans la prière, compatissants, aimer la fraternité, être miséricordieux, modeste et humble, et puis nous verrons que ce n'est pas de la témérité, c'est juste le fait de se retrousser les manches et de commencer à être chrétien. Vous voyez ? non seulement nous ne devons pas attendre que nos frères fassent des efforts, mais nous devons commencer à les aimer positivement nous-mêmes, mais encore nous devons savoir, parce que Saint-Pierre nous le dit, que si nous ne faisons pas cela, Dieu présente un visage de colère à nous qui faisons le mal. C'est pour ça qu'il est écrit, tandis qu'il présente un visage de colère à ceux qui font le mal. Ne pas aimer nos frères, c'est faire le mal, et donc exciter la colère de Dieu. Oui, mais mon frère m'injurie, m'insulte. Si je réponds à son injure, Dieu sera en colère contre moi. Mais est-ce que Dieu n'est pas en colère contre mon frère? Mêlez-vous de vos affaires. La clé de tout ceci se trouve dans l'oraison. Ô Dieu qui préparez à ceux qui vous aiment des biens invisibles, versez en nos cœurs un ardent amour, afin que, vous aimant en toutes choses et par-dessus toutes choses, nous puissions parvenir à ces promesses qui surpassent tout désir. La charité fraternelle doit être en acte, c'est-à-dire elle doit être plus qu'une velléité en nous, ou une puissance même, elle doit être en acte, car elle est la vérification de l'amour de Dieu. Or, cet amour que nous avons pour les frères et que nous avons pour Dieu a pour fin les biens invisibles dont il est question dans l'oraison. Ô Dieu qui préparez à ceux qui vous aiment des biens invisibles. Ces biens invisibles, c'est la béatitude, c'est le ciel, c'est le salut. Nous devons demander à Dieu de l'aimer d'un amour qui n'est autre que son amour. Et la traduction que j'ai sous les yeux ne rend pas vraiment bien le sens de l'original. Infunde cordibus nostris, tui amoris affectum. Infusez dans nos cœurs l'affect de votre amour, c'est-à-dire les dispositions de votre amour. Alors, c'est traduit par un ardent amour. C'est vrai, mais un ardent amour, on pourrait avoir un ardent amour pour, je ne sais pas moi, pour le jus de pomme, pour le football ou pour ou les courses automobiles. Infusez dans nos cœurs les dispositions de votre amour. Bien sûr, c'est un ardent amour, mais c'est l'ardent amour de Dieu lui-même. Tui amoris affectum. Tout amour véritable, chez les chrétiens, n'est que l'amour de Dieu participé. Si j'aime mon frère véritablement comme je dois l'aimer, alors en réalité c'est moins mon amour pour lui qui se manifeste que l'amour que Dieu a infusé dans mon cœur, les dispositions de son amour qu'il a infusé dans mon cœur et qui rejaillissent sur mon frère. Vous pensez bien qu'un tel amour ne peut pas rester sans avoir un impact positif sur ceux qui nous outragent ou ceux qui nous font du mal, si ça doit arriver. Et a fortiori, pour ceux qui ont besoin de nous et qui humblement nous demandent nos assistances, l'assistance de notre prière ou de nos biens. Nous devons aimer Dieu en toutes choses. C'est pour cela qu'il est écrit, afin que vous aimant en toutes choses. En toutes choses, ce sont dans nos frères actuellement, en acte. Nous devons aimer Dieu en toutes choses, d'un amour qui n'est autre que son amour à lui. Et par-dessus toutes choses. En toute chose et par-dessus toute chose. C'est toujours l'oraison. Par-dessus toute chose, pourquoi? Eh bien parce que parfois les choses que nous aimons, comme nous venons de le dire, ne nous renvoient pas une sorte d'écho satisfaisant. Nous aimons nos frères et ils nous rendent le mal pour le bien. Eh bien nous devons aimer Dieu par-dessus toute chose. Nous devons aimer Dieu dans tout ce que nous faisons, conformément à notre état. Et nous devons aimer Dieu par-dessus toute chose, de telle sorte que si ces choses nous étaient ôtées, nous continuerions à aimer Dieu quand même. Et malgré tout, et par-dessus toute chose, et par-dessus tout. Voyez ? Et c'est pour cela qu'il est écrit à la fin de l'Épître, « Et qui pourra vous nuire si vous vous appliquez à faire le bien ? Même si nos frères nous font du mal, si nous les aimons avec cet amour qui n'est autre que l'amour de Dieu que Dieu a infusé dans nos cœurs, alors personne ne peut nous nuire. » Et Saint-Pierre, si nous avions encore un doute, nous dit, « Et si même vous deviez souffrir pour la justice, vous êtes bien heureux. » Même si l'amour que nous déployons pour nos frères, qui est déjà quelque chose sur lequel nous devons travailler, eh bien, même s'il faisait exactement le contraire et que plus nous les aimions, plus ils nous haïssaient et nous traitaient d'une façon terrible, eh bien, nous serions bien heureux. C'est-à-dire que celui qui aime n'a jamais perdu. Alors vous allez dire, j'ai déjà entendu ça dans le monde. Oui, mais si les gens du monde le disent, c'est parce que c'est vrai dans l'absolu, mais ce n'est pas vrai pour eux. Ça, ils le disent pour la concupiscence. En réalité, celui qui aime les créatures pour l'amour de Dieu, en toute chose et par-dessus toute chose, aime Dieu véritablement et ne fait que manifester la réalité de son amour pour Dieu. Vous voyez, un petit peu comme si vous avez, je ne sais pas moi, un marteau, vous enfoncez, vous faites la démonstration que c'est un bon marteau, vous prenez, vous enfoncez le clou s'enfonce et la planche dans laquelle il s'enfonce se casse. Eh bien, c'est pas grave, la démonstration a été faite que c'est un bon marteau. Vous n'allez pas dire la planche est cassée, le marteau en a reçu quelque chose. Non, non, aimer Dieu en toute chose et par-dessus toute chose. Aimer Dieu dans le monde, en aimant les créatures, et spécialement nos frères, et par-dessus toute chose, de telle sorte que même si le monde vient à nous faire défaut par ingratitude ou méchanceté, peu importe, nous aimons Dieu. Et c'est la seule chose qui importe, véritablement. Qui pourrait nous nuire? Personne ne peut nous nuire. Cette réticence à aimer Dieu, mes très chers frères, nous l'éprouvons à cause des désagréments. Mais disons plutôt que aimer Dieu de la sorte nous conduit à diminuer et à laisser le Christ croître en nous. Et donc du coup, évidemment, qui est-ce qui en nous considère qu'aimer nos frères, malgré tout, en toute chose, et aimer Dieu en eux et par-dessus eux? Eh bien, c'est notre vieil homme, le moi, qui finalement considère que l'amour étant sacrificiel, lui en pâtit, puisqu'il diminue et il va mourir. Donc, voyez, nous avons une tendance à considérer que il vaut mieux être réticent à aimer parce qu'on ne sait jamais quelle réponse on va retrouver. Ce n'est pas le bon sens qui parle en nous, c'est justement le vieil homme. Cette chose qui est morte et pourtant qui est toujours là et qui pollue toujours notre volonté et notre pensée, tant que le Christ n'est pas complètement formé en nous. L'infusion des dispositions de l'amour de Dieu dans nos cœurs produit la justice. C'est pour cela que notre Seigneur dit « Si votre justice ne va pas au-delà de celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Quelle est la justice des scribes et des pharisiens? C'est de s'abstenir à faire tout le mal et à faire strictement ce que Dieu nous commande de bien à faire. C'est-à-dire, aimer Dieu, c'est les 10 commandements. Aimer Dieu, respecter les fêtes, etc. Ne pas voler, ne pas tuer, etc. Tout ceci est très bien. Notre Seigneur ne dit pas, regardez, les pharisiens n'ont aucune justice, il faut que vous ayez plus de justice qu'eux. Sinon, son propos ne veut rien dire. Les pharisiens, les scribes et les pharisiens sont pris ici pour des gens très vertueux qui observent la lettre des 10 commandements. Et Dieu nous commande d'observer encore plus de commandements. C'est pour cela que la nouvelle loi est plus dure et plus contraignante que l'ancienne, même si l'ancienne était déjà dure et contraignante. Il nous faut non seulement nous abstenir du mal, mais il nous faut faire le bien, et non seulement il nous faut faire le bien, mais en domptant nos passions, de telle sorte que ce bien, nous le fassions non pas simplement à minima, mais nous le fassions de tout notre cœur et d'une façon sacrificielle. C'est à ces conditions que la communion, mes très chers frères, a une utilité. Parce que pourquoi parlons-nous de la communion? C'est parce que notre Seigneur, c'est lui-même qui en parle. Il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, et après cela, tu viendras présenter ton offrande. Il nous faut non seulement ne pas offenser notre frère, il nous faut non seulement lui demander pardon quand nous l'avons offensé, mais nous devons aussi, autant qu'il dépend de nous, et cela se peut beaucoup, aller nous réconcilier avec notre frère si nous savons que subjectivement il a quelque chose contre nous. Souvent nous nous disons, si mon frère a quelque chose contre moi, c'est pas ma faute, c'est une illusion qu'il a dans l'esprit. C'est peut-être une illusion, mais il faut que j'aille la dissiper. C'est ainsi que mon offrande devient agréable à Dieu. Sinon, elle ne lui est pas agréable. Nous devons nous réconcilier avec nos frères. Nous devons non seulement ne pas les injurier, mais les bénir, de telle sorte que réellement, nous aimions Dieu en eux et par-dessus eux. Alors, mes très chers frères, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est de prier la post-communion de tout notre cœur. À ceux que vous rassasiez du don céleste, donnez, Seigneur, d'être purifiés de leurs fautes cachées et délivrés des embûches de l'ennemi. Par Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur, qui qui est en Dieu, vit et règne avec vous en unité du Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.